commerçants d'Europe, Léonard Vincent.
Bonjour, bienvenue dans Accent d'Europe. Nous retournons en Italie pour commencer aujourd'hui pour nous pencher une fois de plus sur le sort réservé aux demandeurs d'asile. Ils étaient plus de 130 000 l'an dernier aux portes de l'Europe à entrer après la Libye et la traversée de la mer dans le parcours du combattant de la demande de protection internationale. Coincés dans les villes italiennes, ils sont contraints d'attendre des semaines, voire des mois, sans ressources et sans abri. Mais du côté des services de l'État italien, c'est la saturation. Les fonctionnaires en charge de ces milliers de dossiers sont même entrés en grève pour dénoncer les conditions d'exercice de plus en plus difficiles de leur métier. C'est un reportage à Rome de Blandine Hugonnet.
Une file de plusieurs hommes s'étale sur le trottoir devant les grilles du bureau immigration de la police en banlieue de la capitale. Assis par terre sur son manteau, ce jeune Somalien, fatigué, attend comme les autres de passer enfin le portique du bâtiment.
Je voudrais un rendez-vous. C'est pour ça que je dors là depuis des jours. Même sous la pluie, c'est difficile.
Dans les métropoles italiennes, seulement une quinzaine de migrants réussissent à obtenir un rendez-vous chaque jour sur plus de 130 000 demandes déposées l'an dernier. Une surcharge de dossiers à traiter qui s'est accentuée ces derniers mois sous le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, qui a décrété de nouvelles règles pour les services de l'État qui gèrent les dossiers d'asile.
Chaque jour, on nous demande d'accélérer les entretiens, de recevoir toujours plus de demandeurs et de rendre nos évaluations des dossiers toujours plus vite. Mais il n'y a pas assez d'effectifs. Et comme on fait un travail éprouvant et très lourd, tout le monde s'en va et les postes ne sont pas remplacés.
Fonctionnaire au bureau d'immigration de Rome, cet agent qui veut garder l'anonymat reçoit tous les jours des demandeurs d'asile. Avec une partie de ses collègues, il s'est mis en grève pour protester contre un système saturé et inhumain.
Nos supérieurs, l'administration du ministère de l'Intérieur, nous demandent de produire avant tout des résultats pour vider les centres d'accueil. Mais ils ne nous donnent même plus de moyens. Et ils ne traitent pas les migrants comme des personnes qui doivent avoir le droit et le temps d'être écoutés pour nous expliquer pourquoi ils ont fui en Italie, mais comme des gens à expulser, à rejeter du système d'accueil. C'est très très dur. Les nouvelles règles nous empêchent de pouvoir les accompagner comme on le devrait.
Résultat pour les migrants en demande de protection internationale, première étape de l'asile. Dès leur arrivée en Italie, il faut affronter une série de barrières bureaucratiques et parfois non justifiées, comme le révèlent les enquêtes menées ces derniers mois par les ONG.
Il y a des villes où les autorités demandent des documents non nécessaires, comme une preuve de domicile ou une copie de passeport ou la preuve de la filiation pour un foyer avec des mineurs.
Flaminia De Lecese, chargée de plaidoyer pour le Comité international des réfugiés en Italie.
On leur demande plein de papiers qui ne sont pas du tout exigés par la loi italienne ni européenne et qui sont, par ailleurs, très difficiles, voire impossibles à récupérer pour des personnes qui ont affronté un long voyage difficile qui leur laisse parfois des traumatismes. Un autre obstacle, c'est celui de la durée. Selon la loi, la demande de protection doit être enregistrée en 16 jours maximum. Mais en fait, ça n'arrive jamais.
Les demandeurs d'asile sont ainsi contraints de s'en sortir pendant des mois sans papier sur le territoire italien. Dans son cabinet du centre de la capitale, Vittoria Garoschi, avocate spécialisée en immigration, suit plusieurs dossiers de migrants en difficulté.
L'impact de l'attente est très lourd parce que tant qu'ils n'ont pas en main leur formulaire de demande, ils sont privés du reste des droits garantis aux demandeurs d'asile. Et en premier lieu, l'accueil dans une structure pour dormir où il y a une cantine et un vestiaire. Ils ne peuvent pas non plus s'inscrire au système de santé. Donc l'accès à un premier rendez-vous pour avoir la protection est fondamental. Et l'autre problème, c'est le risque d'expulsion parce qu'ils n'ont aucun document qui prouve qu'ils ont demandé l'asile.
C'est un blocage politique et systémique, dénonce l'association d'aide juridique aux migrants.
Malheureusement, c'est devenu un système adopté systématiquement dans tous ces bureaux immigration qui doivent suivre des lignes directrices venant du ministère de l'Intérieur. Et c'est un système qui viole la loi et les droits de chaque personne.
Alors que sous le gouvernement Meloni, la moitié des demandes d'asile examinées l'an dernier a été rejetée, l'inquiétude grandit parmi les défenseurs des migrants ici. Inquiétude accentuée ces dernières semaines par l'adoption du nouveau pacte migratoire européen qui entérine un démantèlement du droit d'asile en Italie. C'est ce que craint Camillo Ripamonti, à la tête du réseau de centres d'aide à Stali.
Si aujourd'hui l'accès aux demandes d'asile est déjà difficile ici, avec l'accélération de leur examen directement à la frontière, comme c'est prévu par le pacte, ça risque de créer une sorte de tri, non pas en fonction de l'histoire personnelle et donc du motif qui a poussé chacun jusqu'en Italie, un peu comme le dit la Convention de Genève, mais plutôt de les classer uniquement en fonction du pays d'origine. Cette stratégie du renvoi ou du refus de faire entrer le migrant met d'autant plus en danger le droit d'asile, mais sans affronter ni résoudre vraiment les problèmes liés aux flux migratoires.
Dans une Italie toujours contrainte par le règlement de Dublin d'examiner les demandes de tout migrant arrivé sur son sol, les associations craignent une hausse de détention arbitraire et de violation de droits pour ceux en attente d'examen de leur dossier. D'autant que les principales nationalités des demandeurs d'asile viennent d'être ajoutées à la liste des pays considérés sûrs par Rome pour favoriser les expulsions rapides. Et l'état d'urgence migratoire est pour la seconde fois prolongé de 6 mois sur tout le territoire italien.
Nous prenons à présent la direction de la frontière de l'Ukraine et plus précisément de la Pologne, devenue l'une des antichambres de la guerre pour ce qui est des livraisons d'armes et de l'aide humanitaire, alors que les vols commerciaux vers l'Ukraine sont suspendus et que certains soins sont impossibles dans les hôpitaux du pays. Les blessés et les malades transitent par la Pologne avant de rejoindre les hôpitaux européens pour y être soignés. Notre correspondant à Varsovie s'est par exemple rendu dans ce qui est appelé le Medevac Hub, par où transitent les patients dans un état critique avant de quitter le pays en avion médicalisé. On écoute le reportage d'Adrien Sarla.
Si quelqu'un veut aller aux toilettes, c'est maintenant, car vous n'y aurez pas accès pendant les 2 prochaines heures ensuite.
Dans ce grand hall, à mi-chemin entre hôpital et salle d'attente, tous les patients écoutent religieusement les consignes de l'instructeur polonais. Tous sont en béquille, en fauteuil roulant ou en lit médicalisé.
Vous avez des questions ? Il y en a qui veulent fumer ?
Dans le coin de la salle, la question arrache un sourire au docteur Adam Shishka.
Bien sûr, je ne suis pas ravi qu'ils fument, mais ce sont des adultes et je ne peux pas les en empêcher. Si un patient est un fumeur de longue date et que j'arrivais en lui disant « Vous ne pouvez pas fumer à cause de votre situation », ça lui rajouterait un nouveau facteur de stress.
Le stress, tous les malades qui passent par le Medevac Hub de Jeschouf le connaissent bien. Cette grande pièce compartimentée en box médicaux amovibles accueille les blessés venus d'Ukraine où ils n'ont pas accès à des soins adaptés. Les patients y restent 1 nuit ou 2 maximum avant de transiter vers les hôpitaux européens partenaires qui leur offrent une place pour être soignés. Et après 1 nuit de sommeil et un petit déjeuner adapté, c'est justement l'heure pour les patients de rejoindre l'aéroport grâce à un bus médicalisé unique au monde.
Restons ici, vous allez voir tout le processus de transfert vers le bus. Ce bus a été donné par des collègues norvégiens et ils l'ont fabriqué spécialement pour notre Medevac Hub. Car l'aéroport de Jeschouf est devenu l'un des plus importants en Europe aujourd'hui, mais les infrastructures restent petites. Alors si on organise un convoi de 15 ambulances, on prendrait énormément de place là-bas. Mais en faisant rentrer les 4 brancards et les 11 sièges dans un seul bus, on peut prendre 15 patients en une seule fois et en utilisant le minimum d'espace dans l'aéroport.
Devant le bus, une petite fille dit au revoir pour la dernière fois à son papa en fauteuil roulant. Elle est accrochée au bras de sa mère. C'est la première fois qu'elle le voit avec une jambe en moins.
Sa femme et sa fille vivent en Pologne depuis qu'elles y sont réfugiées. Lui, il n'a pas pu quitter l'Ukraine. Il a été blessé et a perdu une jambe. Le hub leur a permis de passer du temps ensemble après 1 an sans se voir. Il est arrivé hier, donc ça leur a laissé 1 jour, mais c'est toujours mieux que rien.
Dans le bus, les plus mal en point n'ont pas à bouger de leur brancard. Ce matin, tous s'envolent pour la France dans l'espoir d'améliorer leur état. Sur la banquette du fond, Denis Oleshko s'est assis comme le lui permet sa jambe droite, sectionnée au-dessous du genou.
Il y avait une attaque et dans la tranchée, je suis tombé sur une mine. Mes amis sont morts sur le coup et moi j'ai perdu une jambe.
Tout juste débarqué du front, il espère que ce voyage en France lui permettra de sauver son genou.
Mon médecin m'a proposé de me faire amputer toute la jambe, mais moi j'ai dit que ce n'était pas possible pour moi, qu'il fallait trouver un moyen de sauver ce qui pouvait l'être. Et par la suite, il a rempli lui-même la demande pour me faire transférer via Kiev pour participer à ce programme.
Il fait partie de ces nombreux soldats blessés de guerre qui transitent par le camp. Mais Adam et ses équipes refusent de faire la différence entre les patients qui reviennent du front et les civils. Pour eux, un patient est un patient, et ils font tout pour assurer leur bien-être. Le bus pénètre enfin dans l'enceinte de l'aéroport, mais nous ne sommes pas autorisés à le suivre. La majorité des blessés s'apprêtent à vivre leur premier vol en avion, avec l'espoir de sauver leur corps, mais aussi leurs esprits, abîmés par la guerre.
Wow,
das ist einfach fantastisch.
Hey, du fesche Panzerpuppe, Chefin von der Billigtruppe.
Oui, oui, oui.
Les suites des élections européennes, c'est désormais dans l'enceinte du Parlement que se jouent les équilibres politiques qui vont gouverner l'Union ces prochaines années. La présidente sortante de la Commission européenne, l'allemande Ursula von der Leyen, a de grandes chances de voir son mandat renouvelé, et ce, malgré les polémiques qu'elle a suscitées, les critiques qui l'ont visée, y compris dans son propre camp, le groupe de droite du Parti populaire européen, le PPE. Ursula von der Leyen a donc aujourd'hui besoin de nouveaux alliés. Elle explore bien sûr du côté des sociaux-démocrates, mais aussi du côté de l'extrême droite, en courtisant notamment la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Dès lors, une question se pose, où se situe Ursula von der Leyen et quel est son parcours? Son portrait est dressé cette semaine par Franceline Beretti à travers son œil européen.
Ursula von der Leyen est tombée dans le chaudron bruxellois quand elle était petite. Elle est née dans la capitale belge, c'est la fille d'un éminent diplomate européen, membre du Parti conservateur et protestant. Mais c'est en Allemagne qu'elle se lance en politique. En 2003, elle devient ministre régionale de la famille dans le Land de Basse-Saxe. À l'époque, elle a un petit côté Meryl Streep dans les années 70. Cheveux longs, lissés blonds, attachés en demi-queue. Elle squatte les bancs des cantines, les ateliers de pâte à modeler et les préaux, plutôt inoffensives. Mais en 2005, Ursula von der Leyen passe dans la cour des grands. Elle devient ministre de la famille au niveau fédéral, sous l'aile de la chancelière Angela Merkel. Et ça commence à dépoter, parce qu'elle s'attaque au grand totem de la société allemande, la garde des enfants par les mères.
Avec son engagement pour l'allocation parentale et le développement de la garde d'enfants, elle n'a pas reçu que du soutien dans son propre parti.
À l'époque, von der Leyen promet plus de places en crèche et plus d'implication des pères auprès des enfants. Chez les chrétiens démocrates traditionnels, ça passe mal. Ambitieuse et énergique, elle mène aussi un combat contre la pédopornographie sur Internet. Elle défend le blocage des sites par les fournisseurs d'accès à partir d'une liste de la police. Une mesure qui lui vaut le surnom de Zensurla, jeu de mots avec censure et Ursula.
C'est cynique dans ce contexte de parler de censure, car le viol d'enfant ne peut pas être quelque chose d'accessible avec des moyens de communication de masse.
Von der Leyen suscite une certaine admiration de la part des mères qui travaillent. On le sent chez cette journaliste d'Euronews en 2013.
Et maintenant, une question personnelle, je dois vous la poser de la part d'une collègue espagnole. Comment vous faites ? Vous avez 7 enfants, vous vous occupez aussi de votre père malade. Comment réussissez-vous à concilier famille et carrière ?
D'autant qu'elle lâche en 2009 le portefeuille de la famille pour celui du travail et des affaires sociales. Là encore, elle se bat pour la place des femmes dans les entreprises et souhaite instaurer un quota dans les conseils d'administration.
Je crois que l'industrie comprend mieux quand on lui laisse du temps et que l'on instaure un cadre. Nous voulons qu'en 2020, 30% des sièges des conseils d'administration soient occupés par des femmes. Et nous savons, grâce à des études, que les entreprises ont de meilleurs résultats quand elles sont gérées par des hommes et des femmes.
Malgré ces arguments, elle n'est pas entendue. Cela ne l'empêche pas de devenir ministre de la Défense en 2013, et c'est là que ça se gâte. Elle a de mauvaises relations avec les militaires et sa gestion du ministère est largement contestée pendant son mandat et après. Une commission d'enquête parlementaire est même ouverte en 2019. Elle est évoquée sur France Culture.
Une année de travail et donc ces conclusions des députés verts, libéraux, démocrates et du parti de gauche qui sont accablantes et reprises également par Der Spiegel. Sous Ursula von der Leyen, la gestion du ministère de la Défense allemand était un échec complet, dit le rapport, avec des procédures de contrôle, des contrats de consulting qui n'étaient pas respectés et qui cachaient souvent des liens de copinage, de connivence entre hauts fonctionnaires et lobbyistes privés.
À ce moment-là, Ursula von der Leyen est déjà à la présidence de la Commission européenne. Dans cet environnement, la trilingue allemand-anglais-français est comme un poisson dans l'eau. On le constate lors de la passation de pouvoir avec Jean-Claude Juncker.
Merci encore de ma part et au nom de tous pour ce que tu as fait pour nous. Merci beaucoup pour ce que tu as fait pour les Européennes et les Européens. Merci beaucoup pour ce que tu as fait pour la grande idée européenne.
Merci.
Dans les prochains jours, Ursula von der Leyen va être encore bien occupée à soigner ses relations pour être reconduite à la tête de la Commission. Now this is a story all about how Ryan Rishi got flipped, turned upside down. So stick a pound in the meter if you got my spare. I'll tell you how I became a multiple millionaire.
Il pourrait être celui qui va tourner la page de 14 ans d'hégémonie des conservateurs au Royaume-Uni. Rishi Sunak est notre Européen de la semaine. Le Premier ministre britannique a parié gros en appelant à des élections anticipées le 4 juillet prochain, Julien Chavanne.
Les sondages donnent la gauche largement en tête. Alors pourquoi mettre son mandat en jeu maintenant alors que l'opinion est contre lui? J'ai posé la question à Simon Usherwood. Il est professeur en politique et en relations internationales à The Open University près de Londres.
Peut-être que Rishi Sunak a vu une fenêtre de tir avec de bonnes nouvelles économiques et le début des déportations de migrants au Rwanda. Et tout cela l'a poussé, je pense, à tenter sa chance, même si la situation paraît désespérée.
Rishi Sunak comptait sur son bilan pour une opération éclair. Le voici en interview il y a quelques semaines.
Je peux comprendre que les gens soient frustrés. Bien sûr qu'on n'a pas tout bien fait. Aucun gouvernement ne l'a fait et je sais que ça reste difficile pour beaucoup de personnes. Je suis à ce poste depuis 18 mois et je pense que, particulièrement sur le terrain économique, les gens peuvent constater que l'inflation est revenue à la normale, que l'économie se porte bien et que les salaires augmentent. C'est pour ça que nous avons des élections maintenant.
Alors son pari est raté, sa campagne est un vrai chemin de croix. Les sondages sont calamiteux, il y a aussi la concurrence directe du candidat anti-immigration Nigel Farage. Sans compter sa grosse bourde lors des commémorations du débarquement en France, Rishi Sunak a quitté les cérémonies avant la fin.
Il avait pourtant beaucoup d'atouts pour lui, alors pourquoi ce désamour avec la population?
C'est vrai que les enquêtes d'opinion sont cruelles. Les deux tiers des Britanniques jugent qu'il est un mauvais Premier ministre. À son arrivée à Downing Street, certains espéraient pourtant que Rishi Sunak apporterait un vent nouveau chez les Tories. Fils d'immigré indien devenu millionnaire, il est hindou, ancien étudiant à Stanford aux États-Unis avant d'être banquier. Aurélien Antoine est professeur des universités et directeur de l'Observatoire du Brexit.
Alors il paye déjà les conséquences des politiques passées qui n'ont pas donné de résultats, que ce soit celle de Boris Johnson ou encore le fiasco du passage éclair au 10 Downing Street de Liz Truss. Lui-même a fait un certain nombre d'erreurs majeures. Tout dernièrement, par exemple, l'idée du retour de la conscription pour les jeunes à partir de 18 ans a été très mal vécue. Ou encore cette image de millionnaire du plus mauvais effet dans un Royaume-Uni qui souffre.
Du coup, l'objectif aujourd'hui pour les Tories, ce n'est plus de gagner les élections, mais de limiter la casse.
Une débâcle annoncée pour les conservateurs. Donc, est-ce que l'on sait ce que fera Rishi Sunak après le scrutin du 4 juillet?
Certaines mauvaises langue laisse entendre qu'il pourrait s'exiler en Californie. Rishi Sunak y a travaillé, il a une carte verte et une belle maison à plus de 7 millions de dollars à Santa Monica. Mais à 44 ans, le conservateur assure qu'il veut rester au Parlement. Encore faut-il qu'il conserve son siège, prévient Aurélien Antoine.
Il n'est pas garanti qu'il se maintienne dans sa circonscription du Yorkshire. Il faut savoir par ailleurs qu'au Royaume-Uni, depuis quelques décennies, on n'aime pas trop les losers, entre guillemets, on ne les voit plus trop réapparaître. Donc on le verra sans doute être intéressé par des emplois privés ou de conseils, comme ce fut le cas par exemple pour Tony Blair. Se fera sans doute discret les prochaines années.
Et puis les candidats pour reprendre la tête des Tories sont sortis du bois. L'ex-première ministre Liz Truss ou bien encore la très droitière Suella Braverman. La succession a commencé, comme l'explique Simon Usherwood.
Quel que soit celui ou celle qui va diriger le parti, une chose est claire, c'est que l'aile modérée des conservateurs va perdre du terrain. Et donc, ce sont les plus libéraux, ceux qui sont le plus à droite, qui vont donner le ton et devenir les futurs candidats.
Après 14 ans à la barre, les Tories sont rattrapés par l'usure du pouvoir et menacés par une concurrence toujours plus à droite.
Accent d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. Restez avec nous, l'information continue sur RFI.